22 janvier. Pompeo Neroli habite rue Princesse, une vieille maison qui ne manque pas de pittoresque. Le rez-de-chaussée de cet antique logis est occupé par un marchand de couleurs, et dans la cour séjournent des cuves remplies de teintures diverses, à côté de tonneaux éventrés d'où s'échappent des terres multicolores. Les piliers du vestibule servent aux marchands de cartes d'échantillons et sont badigeonnés de ces différents produits. La maison a tout à fait l'air du logis d'Arlequin. C'est au quatrième étage que sont situées les deux petites pièces où Pompeo Neroli a son atelier et son magasin. Elles sont encombrées de volumes débrochés. Des pots et des papiers s'y accumulent. Neroli, en blouse grise, debout devant sa grande table, semble à l'aise parmi ce désordre. C'est dans une attitude et un costume analogue que j'ai fait sa connaissance à Sienne. Seulement à Sienne, sa boutique était au rez-de-chaussée et donnait sur une étroite rue en escalier derrière le dôme. À la devanture étaient placés quelques-uns de ses volumes reliés en parchemin, pareils au cahier que Neroli m'a donné et sur lequel j'écris. Ces reliures attirèrent mon attention et, comme il commençait à pleuvoir, j'entrai dans la boutique. Pendant que j'expliquais tant bien que mal ce que je désirais, la pluie avait redoublé. Il me semble encore entendre le bruit qu'elle faisait. Une averse épouvantable s'abattait sur Sienne. La rue s'était souvent changée en un torrent fougueux. Il y avait en face un vieux palais renfrogné et ventru qui ruisselait d'eau. Devant lui, les escaliers formaient cascade. Le relieur ne faisait aucune attention à ce déluge, qui ne paraissait pas le surprendre, et il maniait complaisamment ses parchemins. Sienne est une ville de tannerie. Un de ses quartiers, celui où se trouve la maison de Sainte-Catherine, est encore rempli de la même puanteur de cuir et de peau où la sainte fille du corroyeur pouvait croire respirer jadis les relents de l'enfer. Cependant, l'orage avait cessé. Je m'étais entendu avec M. Pompeo Neroli. À mon retour à Paris, je devais lui faire tenir un ballot de livres à relier. Il me reconduisit au seuil de sa boutique, et Sienne ruisselante s'égouttait de toutes ses toitures avec un petit bruit singulier. Le soleil faisait luire les dalles carrées, étinceler les gouttelettes d'eau, et parait la sombre ville d'un chatoiement irisé. Au-dessus de la place du Dôme, une nuée noire se reformait dans le ciel. Une année se passa. Pompeo Neroli m'avait ponctuellement renvoyé les volumes, et je ne songeais plus à lui lorsqu'un jour, Marcellin va me dire qu'un Italien demandait à me parler. Je lui dis de l'introduire, et à ma grande surprise, je vis entrer Pompeo Neroli, relieur siennois, en personne. Il me confia vite qu'il se trouvait dans une situation précaire, et venait s'informer si je n'aurais pas quelque travail à lui donner. Tout en causant avec lui, je cherchais à deviner pourquoi diable ce garçon était venu à Paris, où il ne connaissait âme qui vive, et où il aurait bien de la peine à se tirer d'affaire. Il ne me cacha pas qu'il avait été obligé de quitter Sienne pour des raisons de famille. Rien de mieux, mais alors pourquoi n'était-il pas allé à Florence, à Milan, à Rome? On ne s'expatrie pas sans motif grave. Tout d'abord, Neroli me fit quelques réponses évasives et prudentes. Puis soudain, il se décida à parler. Comme tous les Italiens, Neroli est un conteur excellent. Je me souviens encore de tout le feu et de tout l'art qu'il mit à son récit. Son histoire m'intéressa. Elle ressemblait à une nouvelle de Stendhal ou à un épisode de Casanova. Elle était d'ailleurs fort simple. Il y avait dans le quartier qu'habitait Neroli à Sienne une très jolie fille appelée Antonina. Le père de Nina était quincaillier, veuf, il n'avait que cette fille qu'il adorait et qu'il avait élevée avec une insigne faiblesse, lui laissant faire toutes ses volontés, lui passant tous ses caprices. Nina était charmante, paresseuse, hautaine, et dès 15 ans, elle manifesta une coquetterie diabolique. Malgré cela, plusieurs honnêtes siennois, amis du quincaillier, la demandèrent en mariage. Nina les refusa. Elle n'avait aucune envie de prendre un mari. Ce qui l'amusait, c'était qu'on lui fît la cour. Elle ne se lassait pas d'être adulée. Parmi ses prétendants, Neroli eût été un de ceux que le père de Nina eût accueilli avec le plus de plaisir. Et Neroli se mit sur les rangs. Mais il vit bientôt qu'il n'avait aucune chance d'être agréé. Il parut donc à Neroli que Nina ne voulait pas se marier et ne se contenterait jamais de l'amour sérieux d'un seul homme. Or, Neroli avait conçu une vive passion pour Nina. Le refus qu'elle lui fit de l'épouser fut loin de diminuer son désir, mais elle le délivra de tout scrupule. Et Neroli se jura que Nina, puisqu'elle ne voulait pas être sa femme, serait au moins sa maîtresse. Aussi se mit-il en devoir de parvenir à ses fins amoureuses. Au bout de quelque temps, Neroli pouvait, sans trop de fatuité, croire que ses affaires étaient en bonne voie. Maintenant que Neroli n'était plus un prétendant à sa main, Nina le traitait avec une bienveillante familiarité. À ce manège, Neroli s'échauffait. La passion très réelle qu'il éprouvait devenait de jour en jour plus violente. Nina s'en apercevait et semblait flattée d'inspirer un sentiment si ardent. Enfin, les choses en vinrent au point que le moment arriva où Neroli voulut passer des paroles aux actes. Il s'attendait bien à quelque résistance, mais l'accueil qu'il reçut dépassa son attente. Nina lui signifia nettement qu'il n'obtiendrait jamais rien d'elle. Tout d'abord, il crut que ce n'était là qu'une façon de dire, mais bientôt il comprit que Nina avait parlé pour de bon. D'autres se fussent résignés, mais ce diable de petit siennois n'entendait pas perdre ainsi la partie. Il était fou d'amour et de désir, il lui fallait Nina de gré ou de force. « Mais je n'aurais plus dormi une nuit tranquille, me disait-il, et j'aurais toujours vu ses yeux dans la tombe. » Un jour que Nina était allée seule voir une parente à San Gimignano, Neroli profita d'un moment d'absence du quincaillier pour s'introduire dans la boutique. Rapidement, il grimpa l'escalier et se cacha dans un cabinet qui attenait à la chambre de Nina. La jeune fille ne rentra qu'assez tard dans la soirée. Neroli attendit que le père de Nina fût endormi et qu'elle-même se fût mise au lit. Puis brusquement, il pénétra dans la chambre. En le voyant entrer, Nina se mit à rire. Il crut à cet instant que son stratagème avait désarmé Nina, mais il s'aperçut bientôt qu'il se trompait étrangement. Aux premières tentatives de Neroli, Nina opposa une résistance énergique. Alors commença entre eux une lutte violente et silencieese. Nina eût pu crier, appeler au secours, son père dormait derrière la cloison. Mais elle n'en fit rien. Et ce fut dans l'obscurité que Nina triompha d'elle, dans une étreinte muette et furieuse, d'où il sortit le visage labouré de coups d'ongles et des mains mordues jusqu'au sang, mais sans que ni l'un ni l'autre eussent poussé un seul cri. Après cette prise de force, Neroli était persuadée d'avoir réduit la rebelle. Elle accepterait le fait accompli. Mais là encore, Neroli se trompait. Nina ne fit aucune allusion à Neroli sur ce qui s'était passé entre eux. Seulement, à partir de ce jour, elle se donna ouvertement à qui voulait d'elle, et elle s'arrangeait pour que Neroli fût averti de chacun de ses caprices. Elle espérait ainsi le faire souffrir de jalousie, en prodiguant à d'autres ce qu'elle lui refusait de nouveau avec un dédain marqué, de sorte que Neroli était la fable du quartier, tant il y avait de ridicule à sembler être le seul garçon qui n'ait pas eu la Nina. Il en résulta pour Neroli des railleries, d'où naquirent des querelles. Neroli reconnut les instigations de la Nina. Il comprit que le coup de couteau était au bout de cette histoire et que le mieux était de céder la place. Et ce fut ainsi qu'il se décida à venir tenter la fortune à Paris. Bouffon, Pompeo Neroli n'est pas à plaindre. Il voulait la Nina. Il l'a eue. 23 janvier.
Comment vous voir rarement, monsieur Delbray ?
C'est la douce voix de Germaine Tullier, devant qui je m'incline, qui m'adresse ces paroles avenantes. Mademoiselle Tullier est une charmante personne. Elle a 25 ans. Elle est petite, de joli visage et de taille élégante, avec un air de franchise et de bonté. Le docteur adore cette fille de son frère, qu'il a élevée, car ce frère Ernest Tullier, l'explorateur, a passé la plus grande partie de son existence au fond de l'Afrique, avant d'y périr dans une embuscade de nègres. Germaine Tullier a donc grandi auprès de son oncle et de sa tante. Madame Tullier lui a servi de mère, car elle n'a jamais connu la sienne. Ernest Tullier, ayant eu cet enfant d'une liaison passagère et sans lien légal. Certes, la mort de son père fut douloureuse à Germaine Tullier, mais ne changea rien aux conditions de son existence. Cet homme singulier, qui demeurait absent des années, sans presque donner de ses nouvelles, et dont, petite fille, elle suivait les itinéraires sur la carte, lui est toujours apparu comme un personnage fantastique et comme une sorte de héros de roman. Au retour de ses voyages, Ernest Tullier prenait Germaine dans ses bras, l'embrassait sur les deux joues, et ne pensait plus qu'à déballer ses caisses de collection, ses échantillons, ses insectes, ses trophées de chasse, tous les objets bizarres qu'il rapportait de chez les sauvages, ses amis les sauvages, comme il disait, et qui, malgré ce beau titre, ne se firent pas scrupule de le percer de leurs flèches et de leurs sagaies. Peut-être même le mangèrent-ils, car on ne retrouva jamais le corps de l'explorateur Tullier. Cette mort a fait de Germaine la véritable fille du docteur et de sa femme. Aussi voudraient-ils bien la marier, mais ils ne s'y décideront jamais. Ils veulent pour elle un mari pourvu de toutes les perfections, et dès qu'un prétendant se présente, il lui faut subir un double et terrible examen de la part des Tulliers, que leur amour pour Germaine rend d'une redoutable perspicacité. Le docteur s'occupe du physique, Madame Tullier du moral, et jamais ils ne s'accordèrent pour trouver réunis en un seul homme les qualités qu'il requiert des audacieux. Germaine est la première à s'amuser des exigences de son oncle et de sa tante, et elle leur en est reconnaissante de la tendresse dont leurs perplexités font la preuve. Du reste, elle ne tient pas beaucoup à se marier. Elle aime les livres et les fleurs, et elle a un joli petit talent de peintre. Tullier lui a acheté à Boulogne, au Parc des Princes, un vaste terrain où elle a établi une roseraie, et lui a fait construire, dans son hôtel de l'avenue Henri-Martin, un magnifique atelier.
Quand il prend des vacances, c'est pour emmener Germaine visiter les musées de Hollande, d'Allemagne, d'Angleterre ou d'Italie. Entre son oncle, sa tante, ses pinceaux et ses roses, Germaine est parfaitement heureuse. Les amis du docteur Thuillier la gâtent à l'envi et elle est charmante avec eux. Pour ma part, elle veut bien me témoigner un peu d'amitié. Nous causons volontiers livres ou tableaux. Mais ce soir, c'était grande réception et je me suis contenté de lui adresser quelques mots. Quand j'ai eu quitté Germaine, Thullier, serré la main du docteur et salué Madame Thullier, je me suis senti perdu dans cette foule où je ne connaissais presque personne. On rencontre chez le docteur Thullier des gens de tous les mondes. Thullier soigne tout Paris et il est de ces médecins qui deviennent l'ami de leurs malades, tant il possède une large compréhension des êtres. Aussi ces salons offrent-ils au jour de fête un aspect assez disparate. Ce soir, cette particularité me frappe. Dans le grand hall, sur des chaises percées en haie et devant le théâtre improvisé où vont danser les gitanes, s'alignent des femmes de toutes les catégories mondaines. Il y en a de très élégantes et qui appartiennent à la société la plus chic, de très distinguées et qui font partie certainement des milieux les plus aristocratiques. Ben, voici aussi beaucoup de femmes de médecins, de femmes de professeurs, de femmes d'artistes. Elles se distinguent les unes des autres par leur façon de s'habiller. Toutes s'efforcent de réaliser la mode du moment, mais elles y parviennent chacune par des artifices différents. Les habits noirs des hommes marquent les mêmes différences sociales. On y constate des coupes distinctives. Il y a un habit noir pour chaque profession. Les nœuds des cravates blanches sont aussi des signes auxquels il est difficile de se tromper. Comme de l'embrasure d'une porte, je me livre à cet examen. Quelqu'un me coudoie en passant. Je me détourne un peu agacé. Et je reconnais Gernon. Tiens, tu l'y connais donc, Gernon? Le petit homme, après s'être excusé, est demeuré à côté de moi. Je le regarde. Je le vois mieux ici que sur le tréteau de l'Odéon. Il a vraiment une curieuse figure, à la fois rusée et naïve. Je ne savais pas qu'il quitta si volontiers sa mansarde de la rue Descartes. Sans doute, depuis qu'il est célèbre, il fréquente le monde pour se rendre compte si sa gloire a pénétré dans les salons. Après tout, cette curiosité est bien naturelle. Il a bien le droit de goûter, même sous cette forme, la notoriété tardive qui lui est échue et dont il semble fier, car il se rengorge et se gampre dans son habit ordinairement râpé. On sent que pour un peu il dirait: Mais admirez-moi donc, je suis Gernon. Il a remarqué que je l'observe et il n'en est nullement gêné. Il semble content de son claque dont il exhibe complaisamment la forme extravagamment démodée. Sa cravate blanche n'est pas moins inouïe, elle est grise et on la dirait faite en toile d'araignée. Soudain, son œil s'anime. Germaine Tullier vient lui présenter un jeune homme maigre avec une énorme pomme d'Adam, sans doute quelque admirateur. Je les laisse ensemble et je vais faire un tour dans les salons. Bon, décidément, je m'ennuie. J'ai serré quelques mains, des mains de gens à qui l'on n'a rien à dire. J'ai envie de m'en aller, mais je voudrais tout de même assister aux danses des gitanes. Je rentre donc dans le hall où le théâtre est dressé. Justement, dans un angle, j'aperçois quelques chaises inoccupées. Je serai très bien là pour voir les danseuses. En attendant, je regarde les femmes qui remplissent la vaste salle. La plupart sont sans intérêt, mais il y a, çà et là, quelques jolis visages et quelques
quelques belles épaules. L'aspect de cette assemblée est dans son ensemble riche et gai. La lumière fait chatoyer les étoffes, étinceler les pierreries et les paillons. Le docteur doit être content. Il aime ces soirées d'apparat, bien qu'il s'en défende et prétende qu'il ne les organise que pour amuser Germaine. Du reste, il est maître de maison excellent et place lui-même les arrivantes. Celle qu'il fait asseoir devant moi est fort jolie, bah, tant mieux. Elle est plus que jolie, même, cette nouvelle venue. Elle est belle, très élégante, très singulière, grande, de nobles structures et de lignes harmonieuses. Elle a en elle quelque chose de vigoureux et de souple. Elle porte une robe extrêmement décolletée, d'où sortent de magnifiques épaules. Lorsqu'elle a tourné la tête, j'ai aperçu son profil net et régulier, avec un nez délicat et charnu, une bouche un peu grasse, de gourmande ou de voluptueuse, un menton d'obstiné. La voici, maintenant, qui me regarde de ses yeux bruns légèrement relevés au coin. Son regard est audacieux et tranquille, mais il me quitte vite pour s'adresser à un jeune homme, debout à côté d'une plante verte, et à qui ma voisine, d'un signe de son éventail, indique la chaise demeurée vide auprès de la sienne. Derrière moi, deux messieurs murmurent le nom de cette jeune femme. C'est Madame de Gersainville. Je l'ai considérée avec plus d'attention. J'ai entendu plus d'une fois Jacques de Bergy parler de Madame de Gersainville. Son mari est parent éloigné des Bergy et Jacques m'a raconté certaines anecdotes qui courent sur son arrière-cousine. Elles sont plus à l'avantage de son tempérament que de sa vertu. À en croire ses racontars, Madame de Gersainville serait des plus galantes. Mais que peut-on croire de ce qui se dit sur le compte d'une jeune et jolie femme, surtout si elle est quelque peu libre d'allure et de propos? Le fait est pourtant que Madame de Gersainville se laisse parler de fort près par son voisin de chaise, ce qui n'est pas sans m'agacer un peu. Heureusement qu'un murmure de l'assistance interrompt les causeries. La toile se lève pour les danses. Le décor représente la salle d'un baile de Séville ou de Cadix. Soudain, des guitares grincent, des castagnettes claquent. Sur l'estrade, les danseuses sont assises, enveloppées de longs châles aux effilés soyeux. Elles sont quatre, très brunes de peau, presque laides, avec je ne sais quoi de barbare et de simiesque. Ces visages et ces attitudes n'ont rien de bien nouveau pour moi. Un voyage en Espagne il y a quelques années me les a rendus familiers. Là, j'ai vu danser des madrilènes, des andalouses, des murciennes. Je les ai vus danser, vêtues comme elles le sont ici. Je les ai vus danser nues, et je sais quelle impression se dégage de ces créatures souples et noires. Je sais ce que leur mimique réveille en nous de vieux instincts de sauvagerie et de lubricité, et comment elles font tressaillir au fond de notre chair l'antique et violent désir, celui qui nous agenouille ou nous précipite et qui nous met aux mains la fleur ou le couteau. Mais vraiment, est-il rien de plus illogique que ces spectacles de rut et de passion dans un salon parisien? Qu'ont-ils à faire dans la société bourgeoise où nous vivons? N'a-t-elle pas en effet réduit en nous ces instincts primordiaux de conquête et de possession à n'être plus que de confus souvenirs ataviques? Que d'obstacles n'a-t-elle pas accumulés devant la réalisation de nos désirs? Combien y a-t-il d'hommes qui osent s'emparer brutalement de la proie amoureuse qu'ils convoitent? Comme nous sommes maintenant énervés et veulent. C'est avec des paroles détournées, avec des ruses timides, que nous tentons la vieille aventure d'amour. Nous usons de prévenance, de persuasion. Et quand une femme désirée se refuse et se dérobe, quels moyens avons-nous de la réduire? D'elle, nous acceptons tout, ses feintes, ses fuites, ses trahisons. Nous respectons ses défenses, et qu'elle nous échappe et nous raille, oh, nous nous contentons de gémir et de larmoyer. De même que la violence, la vengeance a fait son temps. La passion la plus audacieuse s'arrête aux actes. Nous imaginons bien encore ce que nous ferions en telles circonstances, mais nous sommes incapables d'agir conformément à nos imaginations. Bien peu aurait osé ce qu'a osé ce petit Neroli envers Nina la Siennoise. Et encore, Neroli est un homme du peuple, mais parmi nous civilisés, ses procédés populaires n'ont plus cours. Je songe à cela tout en regardant les brunes filles d'Espagne mimer la danse ardente et hardie, où elles évoquent en allégorie mouvante les âpres feux du désir. Ma belle voisine, elle aussi, semble prendre un vif intérêt. Elle a posé le coude de son bras replié sur le dossier de la chaise. Elle suit avec attention les figures expressives de la danse. C'est un danseur maintenant qui occupe l'estrade, un petit homme trapu et frénétique, qui se démène avec une extraordinaire énergie. Il est vêtu d'une courte veste noire et porte un épouvantable pantalon de velours vert scarabée, mais il met dans son rôle une si intense passion que l'on oublie la laideur olivâtre de son visage et le bariolage ridicule de son costume. Quand il a fini et qu'il s'est arrêté net dans une pirouette vertigineuse, avec un choc sec de talons, ma voisine applaudit. Machinalement, j'ai fait de même. Madame de Gersaville s'est retournée pour voir la personne qui partageait son enthousiasme. Nos regards se sont croisés de nouveau. J'ai baissé les yeux devant la hardiesse des siens. Le spectacle terminé, je me dirige vers le buffet. En chemin, la gentille Germaine Tullier me sourit gentiment au passage. À ce moment, Madame de Gersainville me dépasse et me sourit également. Quelle différence entre ces deux femmes, et comme elles ont dû goûter différemment les danses de tout à l'heure. Quant à Gernon, que je retrouve au buffet et une coupe de champagne à la main, et toujours suivi de son jeune admirateur qui lui passe des assiettes de friandises, il semble tout guilleret, tout émoustillé. Et il considère d'un air fripon la belle Madame de Gersainville, qui remonte d'un geste négligent l'épaulette tombée de son corsage très décolleté. 30 janvier. J'ai reçu une lettre de ma mère. Les nouvelles que lui a données de moi le docteur Tullier l'ont rassuré, et cependant, entre les lignes, je démêle quelque inquiétude. Il me semble aussi remarquer un peu de tristesse. Peut-être est-elle due à l'extrême monotonie de l'existence que mène ma mère dans cette petite ville de province où elle a voulu vivre. Les mois d'hiver ne sont pas gais à Clessy-le-Grand-Val. Et puis, intelligente et fine comme elle est, ma mère, sans qu'elle s'en rende compte, manque de société dans ce trou perdu. Je sais bien qu'elle aime tendrement sa vieille amie, Madame de Préjarry, qu'elle soigne avec le plus tendre dévouement. Je sais bien que Clessy-le-Grand-Val est sa ville natale et que ma mère retrouve là tous ses souvenirs d'enfance et de jeunesse, qu'elle a une vie intérieure qui l'occupe, qu'elle a pour se distraire les travaux de broderie où elle excelle. Mais malgré tout, les journées doivent lui paraître quelquefois longues dans cette morose et solitaire maison qu'elle a toujours connue et où elle est revenue habiter. Cependant, ce n'est pas dans celle-là qu'elle est née. C'est dans une autre qui appartenait à mon grand-père et qui a été vendue, puis démolie.
À la place, on a élevé une horrible et prétentieuse bâtisse de style moderne qui appartient à M. Lebasureur, homme de progrès et maire de Clessy-le-Grand-Val. Par contre, la demeure de Mme de Préjarry est restée telle qu'elle était du temps où ma mère y passait la plus grande partie de ses journées, lorsqu'elle était jeune fille, en compagnie de Cécile de Préjarry, sa compagne préférée, morte à 20 ans, dont ma mère m'a si souvent parlé et dont elle me montrait, quand j'étais enfant, de si charmantes photographies. Ce sont ces souvenirs du passé qui ont rappelé ma mère à Clessy-le-Grand-Val. Elle avait reporté sur Madame de Préjarry l'affection qu'elle avait pour Cécile. Aussi, à la mort des parents de ma mère, fut-ce Madame de Préjarry qui l'a recueillie chez elle, orpheline, jusqu'au moment de son mariage avec mon père. Ensuite, les seules absences que ma mère se permit furent pour aller à Clessy embrasser sa vieille amie. Lorsque, plus tard, elle apprit que Madame de Préjarry était à demi paralysée, elle courut à Clessy pour la soigner. Les médecins, quelques mois après, ayant déclaré que Madame de Préjarry ne se rétablirait jamais, ce fut de Clessy que ma mère m'annonça la résolution qu'elle prenait de quitter Paris et de se consacrer aux soins que nécessitait l'état de santé de la malade. Dans ce projet de ma mère de se fixer à Clessy-le-Grand-Val et d'y accomplir loin de moi la tâche qu'elle s'était prescrite, j'éprouvais une grande surprise et un vif chagrin. J'avais à ce moment 25 ans et nous habitions ensemble, ma mère et moi. Jamais nous ne nous étions quittés. Nous vivions dans l'intimité la plus complète et je lui laissais la haute main sur la direction de notre existence commune. L'idée de prendre par moi-même une décision ne me serait pas venue. Je m'en remettais entièrement à elle. Ses intentions de retraite avec Clessy-le-Grand-Val m'apparurent comme un véritable abandon. Mais qu'avais-je fait pour mériter ce traitement? Or, c'était justement cet état de dépendance où je me tenais vis-à-vis d'elle, qui inquiétait ma mère depuis plusieurs années. Ce qui, durant mon extrême jeunesse, lui avait semblé chez moi une heureuse docilité de nature, finissait par lui paraître un grave défaut de caractère. Elle retrouvait dans le mien certaines ressemblances fâcheuses avec celui de mon père. Elle déplorait mon manque d'initiative, et peu à peu, elle sentait se développer en moi cette incertitude, cette indécision qui, portée à un point maladif chez mon père, avait empoisonné sa vie. En vain, ma mère avait cherché à secouer en moi cette apathie, mais sans guère y réussir. L'habitude en était déjà prise, et après de sincères efforts pour m'en corriger, j'y retombais avec une décourageante facilité. En vain, elle me donnait toute liberté d'agir à ma guise, je ne montrais aucun goût d'en profiter. La maladie de Madame de Préjarry avait apporté une solution soudaine à un état de choses auquel ma mère ne voyait pas de remède. Bien qu'il en coûtât à son cœur, sa raison la décida. Pour elle, mon intérêt passait avant tout. En renonçant au séjour de Paris, en se fixant désormais à Clessy-le-Grand-Val, en s'éloignant de moi volontairement, elle accomplissait un devoir douloureux mais dont elle espérait les meilleurs effets. Elle rompait ainsi les liens trop étroits qui unissaient ma volonté à la sienne. Elle m'obligeait à vivre pour moi-même et par moi-même. J'aurais désormais à agir sans pouvoir immédiatement recourir à son conseil. Il me faudrait organiser mon existence, faire face aux petites difficultés quotidiennes. Cet exercice de mon indépendance ne saurait n'être que salutaire. Aux yeux de ma mère, c'était une épreuve indispensable. Par un souci délicat de ménager mes susceptibilités, ma mère ne me découvrit pas tout d'abord les raisons qui l'avaient amenée au parti qu'elle venait de prendre, ce qui fit que je n'en compris pas l'héroïque sagesse. Je me révoltai à l'idée de cette séparation qui allait nous éloigner l'un de l'autre. La pensée qu'elle ne serait plus auprès de moi, chaque jour et à toute heure, m'était insupportable. J'en vins à l'accuser d'égoïsme, à lui reprocher de m'aimer moins. Mon premier mouvement fut de prendre le train pour Clessy et de la ramener avec moi coûte que coûte. Mon incertitude habituelle me retint. Au lieu d'agir, j'écrivis. Ma mère me répondit par une longue lettre pleine de tendresse et de bonté. Une correspondance quotidienne s'établit entre nous. Peu à peu, très doucement, très finement, elle me fit deviner les motifs qui avaient dirigé sa conduite. Je sentis l'amour profond qu'il inspirait. Mon irritation fit place à un sentiment de gratitude émue. Je me rendis compte du sacrifice dont j'étais la cause. Les lettres sont un précieux moyen d'explication. Elles permettent d'indiquer bien des nuances qu'il serait difficile d'exprimer de vive voix. Quand on est en présence l'un de l'autre, les paroles, pour ainsi dire, faussent la pensée, tandis qu'à distance, elles conservent mieux sa netteté. Ce fut ainsi que ma mère m'amena à partager ses vues. De plus, ses lettres ont une autre utilité. Elles m'apprirent beaucoup de choses sur moi-même. Un jeune homme connaît assez mal son caractère. Il a besoin qu'on le lui révèle. Ma mère profita de l'occasion qui s'offrait pour moi pour m'aider à mieux discerner le mien. Elle le fit avec cette finesse et cette vérité d'observation qui lui sont propres. Elle me traça de moi-même le portrait le plus exact et le plus juste. Elle me convainquit de la nécessité où j'étais de résister à certaines tendances de ma nature. Une fois mon assentiment acquis au projet que j'avais eu tant de mal à accepter, ma mère me mit au courant de certains avantages qui, de plus, elle y trouvait pour moi. En s'établissant à Clessy-le-Grand-Val, elle me ménageait à Paris une existence plus large que celle que nous y menions à deux. Elle laissait désormais à ma disposition tout le bien dont elle avait hérité de mon père, ne voulant rien en garder pour elle. Elle se contentait, pour subvenir à ses dépenses personnelles, du peu qui lui appartenait en propre et dont le principal consistait dans le petit héritage de son vieux parent nantais. Elle avait ainsi de quoi payer à Madame de Préjarry une modeste pension qui était pour sa vieille amie une aide pécuniaire appréciable. Les choses ainsi réglées m'assuraient une complète indépendance. Malgré cela, je n'étais guère heureux de ma situation nouvelle. Pour la première fois, il me fallait m'occuper de certaines questions pratiques. Cela faisait partie de l'apprentissage dont ma mère attendait de si heureux résultats. Il me fallut quitter l'appartement que nous occupions et en choisir un autre plus conforme à mon nouveau genre de vie. Et c'est à cette époque que je me suis installé rue de la Baume. Ces soins divers accomplis, de quelle lourde tristesse ne me sentis-je pas accablé. Au bout de quelques mois, je suppliai ma mère de revenir. Je ne pouvais m'habituer à ma solitude, je n'avais que faire de ma liberté. Ma mère tint bon et me conseilla de voyager. Je lui obéis. Ce fut la date de mon premier voyage en Italie et je dois reconnaître que j'en éprouvais un grand bien. Certes, en route, j'eus des heures d'ennui et de découragement, Mais l'effet des 2 mois que je passai à Milan, à Venise, à Florence et à Rome me fut salutaire. À mon retour, je me sentis assez bien pour ne pas craindre, en allant embrasser ma mère à Clercy, de raviver trop cruellement le chagrin que m'avait causé sa décision. Nous nous revîmes avec joie. Quand je lui eus raconté les péripéties de mon voyage, elle me confia la façon dont elle avait organisé, elle aussi, sa nouvelle existence et les occupations qu'elle s'y était données. La principale était les soins continuels dont elle entourait Madame de Préjarry. Il lui prenait une grande partie de sa journée, de telle sorte que ma mère n'avait pas le temps de s'ennuyer à Clacy. D'ailleurs, cette petite ville lui plaisait par son calme et son silence, et la vieille maison délabrée et tranquille de Madame de Préjarry convenait à ses goûts. Ma mère ne regrettait nullement Paris. Elle ne s'était jamais accoutumée complètement à y vivre, ni lorsqu'elle y habitait avec mon père, ni quand il était fixé pour mon éducation. Au fond, elle avait retrouvé à Clessy, avec satisfaction, des habitudes provinciales auxquelles elle n'était renoncée que par nécessité. Du reste, maintenant, je suis un peu de la vie de ma mère. Depuis que je vais à Clessy-le-Grand-Val plusieurs fois chaque année, je me suis mis à aimer ces petites rues, ces places étroites, ces vieilles maisons. J'aime l'antique baraque de Madame de Préjarry avec sa cour, son poulailler, ses grandes pièces à l'ancienne mode, son mobilier de briques et de broc. Bien des fois, je suis venu y abriter mes pensées mélancoliques. Elle m'a toujours été hospitalière et bienfaisante. 31 janvier. J'ai rencontré Jacques de Bergy. On lui avait dit ma visite. Comme nous suivions la même direction, nous avons descendu côte à côte les Champs-Élysées. Jacques m'a dit « Eh bien oui, mon cher, quand vous êtes venu, je venais justement de partir pour une petite fugue dans le midi. Vous savez mes habitudes. J'emmenais avec moi une gentille compagne et, ma foi, nous avons parcouru fort agréablement une partie de la côte. Nous sommes d'abord arrêtés à Toulon. J'aime cette ville de guerre avec ses gros cuirassés en rade, son beau quai, son vieil hôtel de ville, et j'ai toujours plaisir à saluer les cariatides de Puget. Musculeuses et gonflées, elles ont l'air d'avoir trop aspiré le vent de la mer et d'en être restées suffoquées. Et puis il y a Toulon, d'antiques petites rues sombres qui m'enchantent, des places à platanes et à fontaines, une entre autres qui me ravissent. Je ne sais pas comment on l'appelle, mais elle est à un bout de la ville, près du rempart. C'est là que stationnent les diligences qui desservent encore certaines localités des environs. On dirait un tableau de Boilly, retouché par Tartarin. Rien d'amusant et de pittoresque comme ces guimbardes à demi disloqués et plus ou moins démodés, avec leurs bâches poudreuses et leurs grosses roues cerclées de boue. Nous sommes restés là quelques jours. Il y a un hôtel convenable, des fleuristes bien fournis, un pâtissier appréciable. J'ai refait aux alentours des promenades que j'aime, celles que j'appelle la tournée des trois caps, le cap Sépet, le cap Sissier et le cap Brun. D'ailleurs, toute la banlieue de Toulonnaise a un caractère très original, même en ses pires endroits, avec ses masures misérables, ses routes pierreuses, ses mastroquets. Il y a des coins d'une sécheresse aride et piteuse que rehausse ça et là la noble silhouette de quelques cyprès aigus. Ces cyprès, dans ces paysages, mon cher, c'est comme un poignard d'Orient à la ceinture d'un cheminot. Nous avons encore parlé de diverses choses, d'Antibes, de Nice, que l'on connaît mal, de Monte-Carlo, que Bergy déteste autant que moi, et où il a perdu quelques rouleaux de louis. Et il a ajouté « Eh, maintenant, il va falloir les regagner, mais je me sens heureusement très en veine de travail. Voyez-vous, ces interruptions sont excellentes. Lorsque, pendant quelques semaines, j'ai vécu ainsi dans l'intimité d'une femme, lorsque j'ai manié une chevelure, touché de la chair, vu jouer des lignes, il me semble qu'il me reste aux mains quelque chose de la volupté éprouvée. Je me sens une dextérité particulière. Mes doigts sont plus habiles à modeler la glaise, à faire revivre les mouvements et les formes. Mes figurines y gagnent en naturel et en souplesse. Tout en parlant, Jacques de Bergy semblait sculpter dans l'air, aux gestes de ses doigts fins, des images palpables. 2 février. Aujourd'hui, en revenant de chez le tailleur, j'ai aperçu rue de Rivoli le docteur Tullier dans son auto. J'étais sur le refuge en face des guichets du carrousel, et je ne sais pourquoi, à la vue de Tullier, j'ai fait un geste d'appel. J'aurais voulu qu'il distinguât ma pantomime et dit à son chauffeur d'arrêter un instant, mais le docteur était occupé à lire une brochure. Quand il eut disparu, je me suis demandé pourquoi j'avais désiré lui parler. Était-ce pour le féliciter de sa fête espagnole? Non. Je sais bien quelle eût été ma question. J'aurais voulu savoir de lui des nouvelles d'Antoine Hurtin. Ce qu'il m'a dit de sa santé m'est revenu à l'esprit à plusieurs reprises. L'idée qu'il est malade, très malade peut-être, me trouble et me préoccupe. Certes, j'ai eu à me plaindre d'Antoine. Ses procédés à mon égard furent mauvais, presque déloyaux. Mais le temps a passé sur ses souvenirs. Et je ne puis oublier qu'Antoine fut mon ami, que nous nous sommes connus presque enfants, que nous fûmes camarades de collège et compagnons de jeunesse, que nous eûmes de l'affection l'un pour l'autre. Et puis je ne peux pas m'empêcher de penser à ses qualités de joyeux viveur et de bon vivant. Hurtin malade, ces deux mots ne vont guère ensemble. Lui qui donnait si bien l'impression de l'insouciance et de la vie, qui semblait si persuadé que les choses agréables de l'existence étaient faites spécialement pour lui, l'argent, les plaisirs, la table, les femmes. Cela me produit un singulier effet de penser qu'à présent il s'inquiète et qu'il souffre. D'ailleurs, le docteur Tullier avait l'air ennuyé l'autre jour en me parlant de lui, malgré son habitude de ne rien laisser voir de ce qu'il présage. Il est certain qu'Antoine a terriblement abusé de tout. Jamais il n'a su maîtriser ses instincts, dominer ses passions. Jamais il ne songea à ménager ses forces. Aussi a-t-il fait beaucoup de sottises, et il est probable qu'il les paye aujourd'hui. Tout en marchant et en réfléchissant à ces choses, je suis entré dans le jardin des Tuileries. Il faisait un temps gris et assez doux. Néanmoins, les allées étaient presque désertes. Un peu comme le Palais Royal, leurs voisins, les Tuileries sont une promenade en décadence. Elles ne sont plus fréquentées comme autrefois, même en été, à l'époque où les arbres y donnent de l'ombre et où les orangers, dans leurs bonnes caisses vertes, y parfument l'air poussiéreux. Le petit monde d'enfants qui animait les allées, les mamans, les bonnes, les nourrices, qui jadis dans la belle saison y occupaient des centaines de chaises, toute cette foule a émigré ailleurs. Maintenant la population enfantine qui remplissait les Tuileries est remontée vers les Champs-Élysées et s'est portée vers le bois de Boulogne. De mon temps, c'est-à-dire quand j'avais 12 ou 13 ans, il en était tout autrement. Les Tuileries jouissaient encore de toute leur vogue. À leurs portes tintaient les sonnettes des marchands de coco, portant en hôte à son dos sa fontaine ambulante et ses tasses accrochées par lance à un baudrier de velours. La vendeuse de madeleine et de sucre d'orge circulait, coiffée d'un petit bonnet blanc. Les bébés faisaient des pâtés dans le sable. Les fillettes sautaient à la corde ou poussaient leurs cerceaux. Les garçons s'amusaient aux billes ou aux barres. Garçons et filles s'unissaient pour jouer aux gendarmes et aux voleurs. Oh, je me souviens de parties admirables où l'on attaquait des diligences, où l'on délivrait des prisonniers, sous l'œil complaisant du gardien et de la loueuse de chaises. Mais à présent, les bandes joyeuses et turbulentes sont dispersées. Les Tuileries actuelles ne sont plus celles d'autrefois. Surtout, elles ont perdu ce qui, à l'époque où j'y fréquentais, faisait pour moi leur principal attrait, la flottille de petits bateaux qui croisaient sur leur bassin. L'enfance française n'a plus de marine. Je me rappelle avec délice la première fois où m'apparut cette flottille des Tuileries. Nous étions, ma mère et moi, arrivés depuis quelque temps à Paris. Le début de notre séjour avait été occupé par les soins de notre installation. Ma mère, pressée de quitter l'hôtel où nous étions descendus en venant du Pouliguen, avait loué un appartement rue Bonaparte. Cet appartement était au fond d'une cour assez spacieuse, mais triste. Son principal agrément était de nous donner droit à la jouissance d'un bout de jardin. Pendant que ma mère déballait, rangeait, je passais dans ce jardinet la plus grande partie de ma journée. Je ne m'amusais guère et me sentais dépaysé. Je regrettais le Pouliguen, la plage, les barques que de ma fenêtre je voyais rentrer au port. Je regrettais aussi la Lambarde avec son vieil escalier, ses vastes greniers, ses chambres obscures, ses corridors et son potager, son bois de chêne vert. J'avais peine à m'habituer au changement d'existence. Yves de Caramel, lui-même, qui ne m'avait jamais été très indispensable, me manquait. Cependant, comme notre installation commençait à prendre tournure, ma mère, pour me distraire, m'emmenait faire de longues promenades dans Paris. Elle me conduisit aux Champs-Élysées, sur les boulevards. Mais les boulevards ne m'intéressaient qu'à demi. Et un jour, elle dit « Ben, nous pourrions aller aux Tuileries. » C'était un après-midi de printemps. Il faisait beau. Nous traversâmes le pont des Saint-Pères et nous suivîmes le quai. Une fois dans le jardin, je me mis à courir. Tout à coup, je m'arrêtai, plein de joie et d'admiration. Devant moi, le bassin s'arrondissait, entouré de nombreux enfants et couvert de bateaux. De ces bateaux, il y en avait de toutes les espèces, de simples bachots ou d'élégants petits navires. Il y avait des goélettes et des sloops, des barques de pêche et des péniches. Il y avait même un vapeur que l'on remontait avec une clé et qui battait l'eau de ses roues à aubes. Un vent léger soufflait et gonflait les voiles minuscules. Les bateaux partaient d'un bord et abordaient à l'autre. Les uns heureusement, les autres après s'être fait mouiller par le jet d'eau. Certains demeuraient en panne ou s'accrochaient à la cabane des cygnes et pour les ramener à la rive, on les harponnait avec des ancres de plomb lancées au bout d'une ficelle et retenues par le gréement. Ce spectacle m'enchanta. Soudain, Paris ne me paraissait plus une ville sans intérêt. Elle en avait un maintenant pour moi. De toute la journée, ma mère ne put m'arracher à ces lieux enchanteurs. Ce ne fut que lorsque le dernier batelet eut quitté l'eau qu'elle parvint à m'emmener. Toute la soirée, je l'employai à remettre en état une vieille barque de pêche que j'avais rapportée du Pouliguen. La nuit, je rêvais à la flottille des Tuileries. Le lendemain, il fallut que ma mère me conduisît au bassin. Il en fut de même le jour suivant. Ma mère, résignée, contente de me voir m'amuser, m'accompagnait. Elle s'asseyait, un ouvrage à la main, sur une chaise et surveillait de loin mes ébats nautiques. Certes, ma vieille barque de pêche se comportait fort bien, et plusieurs des jeunes armateurs eussent volontiers échangé leurs jouets de bazar contre le mien, qui était d'une meilleure structure. Mais certains possédaient de véritables petits voiliers construits avec beaucoup d'art, gréés avec grand soin et qui atteignaient de notables vitesses dans les courses que nous organisions. Ces petits bateaux étaient l'œuvre d'un même fabricant et portaient sa marque. Ce fabricant s'appelait Thomas, le père Thomas, comme on disait. Bientôt, je fis sa connaissance, car il venait souvent au bassin pour y essayer ses rapides goélettes ou ses sloops prompts. Le père Thomas était célèbre aux Tuileries. On le voyait arriver en boitillant et portant entre les bras quelques nouvelles échantillons de son savoir-faire. Thomas était un ancien marin. Il était vêtu d'une espèce de vareuse et coiffé d'un chapeau de toile cirée. Cette tenue nous en imposait fort, non moins que la chique de tabac qu'il faisait continuellement passer d'une joue à l'autre. Mon ambition était naturellement de posséder un bateau du père Thomas. Ma mère ne résista pas longtemps à mon désir, et un matin nous nous acheminâmes vers la rue du 29 juillet où le bonhomme demeurait. Quel délicieux souvenir j'ai conservé de cette visite! L'escalier était roide et sombre. Le père Thomas logeait au quatrième étage, où il occupait une grande chambre extraordinairement encombrée. Il y régnait une bizarre odeur de copeaux, de colle, de peinture, de vernis et de goudron. Sur des planches s'alignaient des coques de toute grandeur, les unes encore blanches, les autres déjà peintes. Quelques-unes portaient déjà leur mâture et leur gréement. Certaines n'étaient encore qu'à l'état de squelette. Le père Thomas construisait à lui seul cette flottille en chambre. Il en était à la fois l'ingénieur, le charpentier, le calfat et le peintre. Seul, il ajustait les planchettes, tendait les cordages, coupait et cousait les voilures. Ses mains habiles façonnaient ses charmants petits bateaux qu'il faisait d'ailleurs payer fort cher. Malgré cela, le père Thomas avait aux Tuileries une superbe clientèle. Je me rappelle mon émotion quand je lui fis ma commande. Comme j'étais pressé, je choisis une coque déjà peinte et prête à être gréée. Le père Thomas me promit que mon sloop serait fin voilier. Ce fut un beau jour que celui où je le vis arriver aux Tuileries, au bras du père Thomas. Le bonhomme n'avait pas manqué à sa promesse. À peine à l'eau, l'alambarde, ainsi s'appelait mon bateau, prit le vent avec aisance et facilité. Quelle joie j'éprouvais à le voir filer rapidement et élégamment, et comme je me précipitais pour aller le recevoir à l'autre bord. Mais mon plaisir avait encore une autre cause. La possession d'un bateau Thomas me tirait du commun et me plaçait au rang des privilégiés. Les possesseurs de ces bateaux formaient parmi le jeune public du bassin un clan à part. On s'y traitait d'égal à égal, et l'on n'était pas sans considérer avec quelque dédain les camarades moins bien partagés. Or, l'alambarde était dans les plus jolies sloops sorties des mains du père Thomas. J'avais le droit d'en être fier, et je le fus bien davantage, quand un gros garçon joufflu s'approcha de moi, me fit compliment de mon acquisition, m'engageant à faire partie de son escadre et en arborer le pavillon bleu à croix rouge. Oh, ce gros garçon que je revois encore avec sa face claire, piquetée de taches de rousseur, avec ses cheveux ébouriffés, ses énormes mollets nus et son costume marin à large col, tenait un rôle important dans nos jeux nautiques. Il s'appelait Antoine Hurtin, et on le désignait le plus souvent sous le nom de l'amiral. L'amiral était fort considéré parmi nous. Il possédait plusieurs superbes bateaux qui faisaient l'admiration de notre troupe enfantine et qui lui donnaient sur nous une incontestable autorité. Antoine Hurtin prenait d'ailleurs la situation au sérieux et il imposait à son état-major une stricte discipline. Cependant, l'amiral, il faut le reconnaître, n'abusait pas trop de son pouvoir. Quoique violent et impétueux à l'occasion, il était au fond bon diable. Et puis, il excellait à organiser nos jeux et à leur donner du mouvement et de l'entrain. En l'absence de l'amiral, le bassin était morne et la journée languissante. Nul ne savait mieux que lui régler une course ou un combat naval. Oh, nous en livrâmes de terribles et d'acharnés sous son commandement. On se divisait en deux camps et nous lancions nos bateaux les uns contre les autres. Il fallait voir les beaux abordages, les beaux enchevêtrements de Beaupré et de Vergues. Quelquefois, il y avait des dégâts, d'où naissaient des querelles, dont l'amiral était l'arbitre. Après ces journées tumultueuses, c'était un spectacle imposant que de voir Antoine Hurtin quitter le bassin, escorté d'un grand valet de pied en livrée, portant les bateaux et les cannes de Monsieur l'amiral, tandis que la tante d'Antoine, l'excellente Madame Bruvan, qui venait chaque jour aux Tuileries chercher son neveu, écoutait avec admiration le récit enthousiaste des exploits accomplis durant l'après-midi. Quelquefois, Antoine exigeait que sa tante fût témoin de ses victoires. La bonne dame ne savait pas résister au désir de cet enfant gâté, et elle honorait de sa présence les régates, joutes et combats où triomphait toujours l'escadre amirale, le pavillon bleu à croix rouge. Ce fut comme spectatrice de nos ébats navals que Madame Bruvan et ma mère firent connaissance. Le deuil de ma mère, sa tristesse, sa solitude intéressèrent Madame Bruvan. Les deux femmes causèrent. Madame Bruvan, demeurée veuve de bonheur, avait élevé son neveu Antoine, dont les parents étaient morts tragiquement dans un accident de chemin de fer. La pauvre Madame Bruvan était restée épouvantée à jamais de ce funeste événement. Elle vivait, au sujet de son neveu, en des transes perpétuelles. Antoine était surveillé étroitement. S'échauffait-il, courait-il, elle le voyait déjà atteint de quelques graves refroidissements. Aussi le valet de pied de confiance qui accompagnait Antoine apportait-il avec lui tout un assortiment de manteaux et de châles. Il avait ordre de ne pas le perdre d'instant de vue. La voiture qui amenait Antoine aux Tuileries et qui l'attendait toute la journée pour le ramener chez lui contenait dans ses coffres une pharmacie complète et des vêtements de rechange pour le cas où Antoine fût tombé dans le bassin. Bref, Madame Bruvan multipliait les précautions de toutes sortes. Certes, ma mère me gâtait fort, mais Madame Bruvan la dépassait de beaucoup. Madame Bruvan ne vivait que pour cet enfant, à qui devait revenir un jour la grande fortune de sa tante et le bel hôtel qu'elle habitait qu'à Malaquais. À ce régime, Antoine Hurtin eût pu devenir insupportable. Il se contentait d'être volontaire et paresseux. La tante Bruvan était incapable de résister sérieusement à aucune de ses fantaisies. Ce beau système d'éducation continua quand Antoine fut employé comme demi-pensionnaire au collège Saint-Hippolyte. La même voiture à deux chevaux qui le menait à la grille des Tuileries le conduisait à la porte du collège et venait l'y attendre pour la sortie. La bonne Madame Bruvan ne cessait d'ailleurs d'intervenir dans la vie scolaire de son neveu. On ne voyait qu'elle chez le directeur, chez le censeur, chez le préfet des études. Elle était là pour aplanir toutes les difficultés. C'était sans cesse des demandes de congés, de faveurs, de dispenses. Elle venait l'excuser auprès de ses maîtres pour un devoir non fait ou pour une leçon non sue. Elle lui évitait les pinsommes et les retenues qu'il eût méritées. Elle veillait à ce qu'il occupât en classe telle place à l'abri des courants d'air. On eût certainement envoyé promener toute mère d'élève qui se fût permis de se mêler ainsi de ce qui ne la regardait pas, mais, faut-il le dire, Madame Bruvane était riche, elle était généreuse, elle donnait abondamment aux quêtes, elle offrait des vitraux à la chapelle et des ornements à la sacristie. À Saint-Hippolyte, on était fiers de Madame Bruvane et de sa fortune. D'autre part, Antoine, s'il était mauvais élève, n'était pas mauvais garçon. Malgré la situation exceptionnelle qu'il occupait et les passe-droits dont il jouissait, ses camarades l'aimaient beaucoup. Ses maîtres reconnaissaient également ses bonnes qualités, tout en déplorant que son travail et son application ne fussent pas à la hauteur de son heureux naturel. Bourré de répétitions, surveillé à la maison par un précepteur particulier, Antoine n'apprenait rien. En revanche, il était au courant de tout. À 15 ans, il lisait les journaux, fréquentait les champs de course, allait voir toutes les pièces en vogue, était un fervent du café-concert. Madame Bruvane le laissait faire, déclarant que ses divertissements étaient en somme innocents. À Saint-Hippolyte, où nous étions tous assez négligés dans notre tenue, Saint-Antoine s'habillait avec recherche et avec chic. L'intérieur de son pupitre à l'étude faisait notre admiration. Il renfermait un vaporiseur, des lorgnettes de théâtre et de course, une collection de cartes de pesage et un paquet de photographies d'actrices. On y trouvait de plus un revolver et une liasse d'obligations de chemin de fer. Personne n'ignorait à Saint-Hippolyte ses infractions à la règle. Mais le pupitre d'Antoine Hurtin était sacré. Aucun surveillant ne se fût hasardé à y mettre le nez. Je ne puis jamais penser sans rire à Antoine Hurtin, collégien. Et pourtant, c'est cette éducation absurde qui a fait de lui ce qu'il est. Sans la faiblesse de sa tante et les complaisances de ses maîtres, Antoine ne serait pas devenu le viveur bruyant et inutile dont l'impunité et le manque de direction ont laissé se développer les instincts fâcheux. Quand on voulut réagir, il était trop tard. Ce fut en vain que M. Le Chaume, le directeur de Saint-Hippolyte, avertit Mme Bruvane que les amusements de course et de théâtre auxquels se plaisait son neveu étaient moins innocents qu'elle ne le croyait. Antoine, dès sa rhétorique, avait fait la connaissance d'une petite actrice du Palais Royal, Mademoiselle Larger, qui venait d'attendre à la sortie du collège, dans la voiture même de Madame Bruvane. Quelque temps après, lors de la procession de la fête-dieu, qui se faisait en grande cérémonie dans le jardin et dans les cours du collège, Mademoiselle Larger s'y montra habillée en homme. Oh, le scandale fut trop fort et Antoine dut être renvoyé. J'en éprouvai un vif regret. J'aimais beaucoup Antoine Hurtin. Ma mère, avertie par les confidences désolées de Madame Bruvane de la conduite de son neveu, ne me le laissait plus fréquenter que le moins possible, et ce ne fut que plus tard que nos relations reprirent. Ma mère avait assez confiance dans ma raison et mon bon sens pour ne pas craindre que j'imitasse la conduite du jeune Hurtin. D'ailleurs, je n'en avais guère les moyens. Nos situations de fortune étaient trop différentes pour que je puisse le suivre dans l'existence qu'il menait. Antoine, devenu alors, par la mort d'un vieux parent, le baron Hurtin, passait son temps avec des femmes de théâtre et des cocottes chics. Il chassait et faisait courir. Le baron Hurtin était une des figures de la haute noce parisienne. Il faisait partie d'une bande dont il était le bout en train. On s'amusait fort dans la bande Hurtin. Parfois, on montait sur une impériale d'omnibus et l'on jetait des œufs pourris sur les passants. Un jour, à la suite d'un pari, l'un de ces messieurs souffleta en pleine rue un vieillard inoffensif qui se trouva être un ancien ministre de la Justice. Je n'avais aucune envie de prendre part à ces folies stupides. Néanmoins, je voyais Antoine Hurtin de temps à autre. Il était très gentil avec moi et j'avais même sur lui une certaine influence. Madame Bruvane, qui n'ignorait pas qu'il en fût ainsi, me priait souvent d'intervenir auprès d'Antoine. Je le faisais de mon mieux, mais je me suis demandé si ce n'avait pas été une des raisons qui ont poussé Antoine à agir avec moi comme il l'a fait. M'en voulait-il de cette influence que j'exerçais sur lui comme d'une supériorité qu'il trouvait inadmissible de la part de quelqu'un sur qui il avait tant d'autres avantages? Je me suis aperçu plus d'une fois qu'il lui était désagréable que j'eusse des sentiments, des goûts autres que les siens. Il était vexé que je n'adoptasse pas son genre d'existence. Lui qui détestait la lecture, enrageait de me trouver un livre à la main. Les préoccupations qui lui étaient inaccessibles chez un autre l'agaçaient. Sa vanité en souffrait sans qu'il s'en rendît compte. Car, au fond, avec ses airs bon enfant, Antoine est vaniteux. Il était vain de sa fortune, de sa personne, vain de sa force et de sa vigueur. Qu'un pauvre diable comme moi, qui n'était ni riche, ni herculéen, ni sportsman, ni homme à la mode, eût pu plaire par lui-même à une charmante, élégante jeune femme comme cette petite Étiennette Sierville, cela lui parut inadmissible. Il a trouvé sans doute que j'empiétais sur les prérogatives des grands viveurs de son espèce. N'est-ce pas à eux qu'appartiennent de droit les Louise d'Évry et les Étiennette Sierville? Alors il a voulu me donner une leçon. Il m'a enlevé Étiennette méchamment, brutalement, vilainement. Il me l'a enlevé de façon à me gâter le souvenir que j'eusse pu conserver d'elle, même infidèle. Il l'a prise par l'attrait de son argent, me montrant ainsi qu'elle n'était ni moins vile ni moins vénale que ses pareilles. Quand je pense à cette vieille histoire, je me reprends à détester Antoine Hurtin. Puis, malgré moi, l'idée qu'il souffre, qu'il est malade, m'attendrit, et je songe aux angoisses de la pauvre Madame Bruvane. Je la revois accompagnant au bassin des Tuileries un gros garçon joufflu, en costume marin, portant entre ses bras un bateau Thomas, et je sens s'évanouir ma rancune. J'aurais dû arrêter le docteur Tullier et lui parler sérieusement.